30 minutes pour écouter Europe 1. Nous allons rester maintenant une heure en compagnie de Pierre Lescure et de Michel Sand.
Michel Sardou, bonjour.
Bonjour.
Ça, c'est déjà, faut déjà le signaler, un des disques que tu as choisi.
Oui, c'est un que je passe très très souvent. Enfin, mon disque est complètement usé maintenant. C'est Herbie Hancock, c'est Hang Up Your Hang Ups. Et c'est sur un album fabuleux, Manchild, qui est vraiment formidable.
C'est presque un indicatif pour une journée, ça. On peut attaquer la journée.
Oui, on peut attaquer. Moi, j'attaque le matin avec ça. C'est une chanson qui met en plus, qui réveille bien. On peut mettre du jazz le matin. Moi, à une époque, je mettais du Nouvelle-Orléans le matin. Je trouvais ça très gai, ça faisait voir la... Ça démarre en fanfare, et puis après, bon, bah, j'ai changé un petit peu de... J'en avais un petit peu assez, et je suis retombé là-dessus, ça, je trouve ça formidable. Et Herbie Hancock est un grand compositeur, en plus.
Et puis, un son étonnant, j'espère que ça passe aussi bien dans le...
Oh, je pense que ça passe à la radio.
Transistor,
Il faudrait qu'un jour, tout le monde s'installe en FM, parce que ça serait parfait. Là, on pourrait vraiment profiter des arrangements, oui.
Il se présente comment, ton programme, en gros?
Bah là, pour aujourd'hui, ça va être assez américain.
Tu dis pour aujourd'hui parce qu'on va passer deux dimanches ensemble.
C'est ça, premier dimanche, ça va être assez américain. J'ai quand même avec un Français quand même, un petit jeune qui est pas mal du tout, traîné. c'est des choses dans les dates, j'ai pas fait chronologie parce que j'aime pas les dits, j'ai pas de chansons qui me rappellent des choses précises en fait.
Les souvenirs, ça vient toujours en vrac.
Oui, ça vient en vrac. Alors j'ai fait un mélange un peu de genre, de thèmes que j'aime, enfin de choses que j'aime.
On laisse finir M bien encore.
Ah oui, effectivement. Okay.
Herbie Hancock, donc, un album à conseiller pour se lever du bon pied.
Oui.
Et puis au programme de Michel Sardou, qu'est-ce qu'il y a encore?
Il y a Trémonichat.
Ah.
Qui a été écrit en 1911 par Scott Joplin. Et pour les gens qui ne sauraient pas qui est Scott Joplin, c'est le monsieur qui a fait la musique du film L'Arnaque. Le piano, là, qui est superbe. Et c'est une comédie musicale noire, sur des noirs, qui a été écrit bien avant Porgy and Bess. Ça a été écrit, je crois, en 1911. Et il y a un tout petit morceau que j'ai mis là-dedans. C'est aussi, ça peut être une chanson de réveil aussi, ça. Ça peut être une chanson gay. C'est assez surprenant. D'ailleurs, Scott Joplin, à mon avis, a été beaucoup volé sur ce thème, justement. Il y a eu des chansons qui ressemblent curieusement au thème qu'il y a là-dedans. Il y en a eu beaucoup de fêtes dessus.
Mais c'est vrai ce que tu disais, Michel, de toute la production de Scott Joplin qui a été pillée, parce que le nombre de rags ou de ragtime qu'a fait Scott Joplin et qu'on retrouve, dont on retrouve des phrases entières dans chansons américaines après, c'est vrai que...
Bien sûr, il a été... On lui a fait des poches.
Il n'a pas dû toucher tous ses droits.
Non, je crois pas.
Le coup. Bien, il y a donc des souvenirs en vrac ou des choses d'aujourd'hui, je suppose, dans ton programme Herbie Hancock. Il n'est pas vieux, celui-là,
non,
en commençant.
Ça, c'est pas vieux, non.
Tu réécoutes beaucoup de vieilles choses, toi?
Ça dépend. J'ai des envies, j'ai des périodes où j'ai envie d'écouter des vieux disques. Je réécoute des 78 tours, des Al Jolson, des choses comme ça. C'est par période. Après, je vais alors dans le futuriste aussi. J'ai des crises de pop.
Mais pas de musique sérielle, quand même.
Non, la musique sérieuse, je ne supporte pas. C'est certainement la musique de l'avenir, parce qu'il n'y a pas raison, mais j'ai l'impression de me conduire comme les vieilles barbes de l'époque qui parlaient du rock'n'roll en disant qu'il n'y avait pas d'avenir. J'aime pas ça, je la comprends pas, la musique sérieuse, ça ne m'émeut pas. Moi, ce que je veux, c'est que la musique me donne des frissons, me donne la chair de poule, me rende amoureux de je ne sais pas qui, me rende triste. Et la musique sérieuse, vraiment, je la suis pas tellement. Mais c'est certainement... Il paraît qu'il y a un studio à Beaubourg extraordinaire où ils font des essais de sons... Il faudra que j'y aille un jour. Ils ont des instruments insensés.
Mais je crois que c'est la bonne définition, c'est ça. C'est que si on n'est pas touché, ému, si la fibre ne...
C'est ce que moi je reproche un peu à cette musique-là. C'est que c'est trop technique. C'est-à-dire, bon, c'est le Moog à tout prix. C'est trop... Enfin, quand je dis le Moog, pas forcément le Moog, d'ailleurs. C'est vraiment la dissonance aussi. Très, très souvent, c'est des accords fous. Et je trouve ça trop agressif pour moi, pour l'oreille. Il faut vraiment être, bien fait, je crois, pour supporter ça.
Bien, donc de la musique sans dissonance.
À qui j'arrête, pour moi.
Qui j'arrête.
Ah, d'entrée. Ça, qui j'arrête, pour moi, c'est quelque chose de très important.
L'ensemble de son œuvre est à conseiller.
Ah oui, tout l'ensemble.
Ce qui est ennuyeux, enfin pour nous, ennuyeux entre guillemets, c'est que c'est souvent très très long, qui j'arrête.
C'est ça, c'est le problème, c'est que c'est toujours des titres de 8-10 minutes. Alors j'en ai trouvé un, moi.
Ah.
C'est All I Want, All I Want, je parle un anglais dégueulasse. Ça dure 2 minutes, ce qui est rare, en plus. Ça dure le temps d'une chanson, quoi, 2 minutes 45, 2 minutes 50. Et c'est un... Avec qui il a écrit ça?
Johnny Mitchell, je crois.
Johnny Mitchell. C'est Johnny Mitchell qui a fait ça.
Keith Jarrett. Donc d'ailleurs, Michel, je crois que la définition que tu disais, que tu donnais tout à l'heure de la musique sérielle en disant que c'est peut-être la musique de demain, mais que c'était pas toujours très, très émouvant. Keith Jarrett, c'est une musique qui a recherché beaucoup de sons, beaucoup de climat, et ça reste une musique très...
Oui, mais c'est une musique éternelle, Keith Jarrett. Mmh. C'est vraiment la mélodie, c'est vraiment la...
Ça, il n'y a pas de recherche mécanique, c'est...
Il a évidemment craqué deux, trois fois aussi avec Moog. Et il a un disque formidable, quand il s'est mis à l'orgue. Il a fait un double album où il s'est mis à un orgue d'église. Alors là, c'est quelque chose. Il s'est amusé avec l'orgue. C'est grandiose aussi. Mais c'est la musique que j'aime. C'est la musique qui évoque quelque chose. Mais il faut que la musique me fasse voir des images. Enfin, je conçois la musique comme ça. Il faut que je vois quelque chose, ma propre version, ma propre image à moi. Je m'imagine un truc, je suis dans une ambiance. Si j'ai pas ce déclic-là, je décroche. Il faut que je voie quelque chose.
Est-ce que tu réécoutes quelquefois tes anciennes chansons à toi?
Jamais, moi.
Jamais?
Non.
Ça te fait pas plaisir?
C'est pas ça, c'est que quand on les fait, on les chante beaucoup, on les réécoute beaucoup pour les mixer, pour tout ça. Et après, je les supporte plus. Je les supporte plus, je les aime qu'en scène après. Je les aime les mettre vivants. Mmh. Parce que je change l'orchestration, parce que je la chante différemment, parce que je suis pas un amoureux des studios. Je préfère être sur scène, en fait. Je préfère la chanter vivant.
Mais là encore, c'est une question d'émotion.
C'est aussi une question d'émotion. Le meilleur moment d'une chanson voix, c'est quand on l'a fait. Je crois qu'il faudrait, à ce moment-là, qu'il y ait tout le monde qui ait un studio prêt. Parce qu'au moment où on la chante pour la première fois, quand on l'a découvert, quand on a fini la musique ou fini le texte, c'est là où on est le meilleur interprète. Après, on essaye d'en faire un peu moins, un peu trop. On monte un peu ceci, on l'habille un peu trop. Il faudrait qu'un jour, on puisse écrire en studio, que je puisse écrire en studio pour m'amuser. Je le ferai d'ailleurs un jour, pour voir, et laisser tourner. J'essaierai de faire un album comme ça, j'ai ça dans la tête depuis longtemps. Il l'avait fait d'ailleurs, à une époque, ça s'était fait avec des musiciens de jazz. C'était au studio Barclay, je me rappelle, c'était il y a déjà quelques années. Et ils étaient arrivés le matin avec sandwich et tout. Ils sont installés dans le studio B, le petit studio qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore. Et ils ont commencé à jouer à 9h du matin, ils ont fini à 6h du matin. Et les bandes ont tourné sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ils ont sorti un album sans rien. Ils recommençaient, ils réécrivaient. Ça, c'est une très bonne formule. Ouais.
Donc, il y a de bonnes choses.
Alors là, il y a un truc très spécial que j'aime beaucoup, c'est Cheech and Chong. Ça, c'est très peu connu. C'est deux duettistes qui font des disques parlés. C'est un sketch américain. Alors, même moi qui comprends vraiment très mal l'anglais, tout le monde va comprendre s'il s'accroche un petit peu. C'est un sketch qui s'appelle Dave. Et c'est très original. Je crois que c'est jamais passé en radio. Je pense pas.
Non, je pense pas non plus, non.
Et
en deux mots, peut-être situé à scène.
En deux mots, ça se passe dans un mauvais quartier de New York, dans les bas quartiers, dans les mauvais quartiers. Il y a ce fameux Dave qui est suivi par des flics parce qu'il a sur lui un petit sachet qui est décommandé pour les maux de tête. Et il frappe à la porte d'un copain pour lui demander d'ouvrir.
Who is it?
Open up, I got the stuff.
Who?
It's Dave, man. Open up, I think the cops saw me come in here.
Même sans être polyglotte, on a tous compris.
Oui, ça rassure.
Mais c'est à la fois super bien fait parce que tout dans la nuance, mais c'est affolant. Ce qui est évident que ce mec n'ouvrira jamais. On revient à des chansons. Je dois dire d'ailleurs, tu nous as reçus chez toi pour ce dimanche matin, Michel, que tu as pioché un peu partout dans les...
Ah bah j'ai préparé.
Il y a des coffres superbes d'ailleurs.
Oui.
Des coffres classiques, des coffres vieux souvenirs, des coffres de coffrets.
J'ai fait, je me suis organisé pour ça. Il y a mon coffre-fort aussi, mes disques préférés, parce que mon fils touche à tous mes disques. Ce qui fait qu'il faut que je les plante maintenant, parce qu'il les esquinte. Et j'ai bien préparé mon coup parce que je voulais faire j'ai tout réécouté là, hier soir, j'ai réécouté pas mal, j'ai écouté une cinquantaine de disques pour préparer justement cette émission.
Et alors tu as retenu quoi entre autres encore?
Oh bah j'en ai plein donc, que j'aime là-dedans, dans cette liste aujourd'hui, il y a un Barbara Streisand qui est remarquable, ça s'appelle Après un rêve, et elle chante en français. Bon, Barbara Streisand, il n'y a pas besoin de la présenter, ni de dire... C'est la perfection. Au niveau chanson, pour moi, c'est la perfection. C'est la plus grande chanteuse qui soit.
Et là, cet extrait d'un album où elle reprend
un album classique. Et ça, c'est vraiment très joliment fait, comme tout ce qu'elle fait. De toute façon, c'est toujours, moi, Streisand, c'est très, très agréable. Faut pas le faire à haute dose, mais c'est bien.
Après un rêve, c'était Barbara Streisand. Nous allons trouver Pierre Lescure en compagnie de Michel Sardou, tout de suite après le flash de midi. Vous écoutez Europe 1, il est midi 5. Voici de nouveau Pierre Lescure, en compagnie aujourd'hui de Michel Sartre.
Le programme de Michel Sardou ce matin, il a pioché donc un peu partout dans des mines d'or. Finalement, t'écoutes beaucoup les autres, hein, t'écoutes énormément de musique.
Ah, énormément. C'est très important.
Faut se baigner sans arrêt dans la...
Ben oui, on tourne en rond, on s'enferme complètement. Puis, enfin, moi, en plus, musicalement, par rapport à tous ces disques qu'on entend là, moi, je suis vraiment un petit gamin à côté de ça. C'est, musicalement, c'est vraiment des... Ça donne même des idées. Je m'en cache absolument pas. Très souvent, je m'inspire soit d'un... Je parle surtout pour les arrangements. Hein. Pas pour les textes, c'est autre chose, c'est trop différent. Mais pour les arrangements, on s'inspire très souvent d'une couleur qu'on a entendue. C'est pas du tout du plagiat, d'ailleurs, mais... d'une couleur, d'un son de batterie, d'une façon de prendre des guitares. Enfin, très très souvent, je m'accroche beaucoup à ça. Ça me rend de grand service. Et en plus, c'est très important d'être au courant de ce qui se fait, quand même.
Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est que je voyais que dans tes différents coffres aux merveilles, là, il y a tout. Il y a tous les genres, tous les styles.
Ah oui, ça va du classique, l'opérette. Ça va de Mariano à Herbie Hancock, finalement. C'est parce que pour moi, je n'ai pas de différence entre les musiques. Si tu veux, il n'y a pas de musique grande et petite. Ça, c'est le fameux adage. Mais pour moi, toutes les musiques, on fait tous le même métier. Que Chuck Corea, Charles Trenet, c'est le même métier. Mm-hmm. C'est pareil. Bon, les moyens sont différents, l'expression est différente. Mais on fait de la musique, de toute façon. Alors, chacun avec nos moyens, avec nos idées. Disons qu'en France, on est moins gâtés au niveau création musicale. Je parle pour moi, là. Je ne peux pas dire de mal de mes camarades, bien au contraire, mais je parle que de moi.
Mais s'ils sont d'accord, ils peuvent nous aider.
Parce qu'on est un petit peu enfermés. C'est-à-dire que, quoi que ça évolue énormément en ce moment. Et pendant des années, on est un peu resté soit un petit peu sous les Américains, parce qu'il y a eu l'époque adaptation, on faisait pratiquement que ça. Après, on est très marqué par la musique américaine et on est complexé. Enfin, on n'ose pas. Il y a des compositeurs en France fabuleux qui ont autant de talent que les compositeurs américains. Mais disons, on a une espèce d'autocensure qui se fait chez les compositeurs ou chez les arrangeurs français qui commence un petit peu à disparaître et c'est bien. Il y avait le complexe des studios, il y avait le complexe des musiciens. Alors que je crois que moi, personnellement, j'ai été dans les studios américains, dans les studios anglais. Je garantis que les musiciens français sont aussi valables que les musiciens de Nashville, si c'est mieux. Parce que les séances sont formidables. J'ai assisté à des séances, quand Elton John est venu enregistrer en France, il n'était pas du tout déçu. Il y a des studios formidables. Mais on a toujours eu un petit complexe qui nous a mis en retard aussi au niveau de la création. Eux prennent des risques musicaux. Ils font des trucs fous, ils font des plages entières d'idées. Nous, on n'ose pas trop encore, on est encore un petit peu traditionnel.
Ce qui est important, c'est qu'effectivement, avec l'évolution que tu évoques, il y aura beaucoup moins cette espèce de folie de la version française, il y a beaucoup plus de création française. Ouais. Et puis, il y a peut-être aussi un mouvement que tu peux accélérer, c'est que, reprenant par exemple comme d'habitude, c'est vrai qu'en France on reprend très peu les grands standards, parce que c'est un standard.
J'ai jamais compris pourquoi en France on le faisait pas. Ça, c'est chacun sa boutique, en France c'est marqué par quelqu'un, on a une étiquette dans le dos. Si vous reprenez Ne me quitte pas, on dit que c'était trop marqué par Brel, ce qui est vrai, par le créateur bien sûr. Mais pourquoi ne pas refaire autre chose? En Amérique, il y a eu je ne sais combien de centaines d'enregistrements de My Way, de versions de My Way, tout aussi valables les unes que les autres. Et en plus, c'est même plus amusant parce qu'il faut rechercher sa propre personnalité derrière quelque chose d'existant. Donc là, l'arrangeur peut vraiment trouver des choses originales. Mais en France, ça se fait pas. C'est comme ça. On ne prend pas la chanson dans l'autre. Quoique maintenant, ça bouge un petit peu. Comme d'habitude, a été un succès. D'ailleurs, quand j'ai voulu faire comme d'habitude, j'avais été voir Claude. J'avais dit, je vais te sortir comme d'habitude, je la mets sur façade d'un 30 centimètres. Il me dit, t'es complètement fou, ça marchera jamais. Ils ne suivront pas. Il dit, je suis très heureux, mais ça ne marchera jamais. Je dis, je te parie, on se fait un dîner, tu verras que si je me gourre pas dans ma version que je voulais faire, démarrer seul, etc., dit, ça peut justement surprendre. Et puis, il y a eu assez de décalage entre ta création et la mienne, on peut essayer. Et ça s'est très bien passé. Malheureusement, on n'a jamais pu dîner ensemble.
Qu'est-ce qu'on reprend du programme?
Ben maintenant, il y a... Alors là, on fait un petit voyage dans le temps, et là, très important. C'est Fats Domino. Blueberry Hill. Ça, c'est très important pour moi, parce qu'à chaque fois que je fais une fête, ce qui m'arrive rarement parce que je suis devenu sérieux maintenant. On se met au piano et la première chanson qu'on fait quand on fait un bœuf, c'est Blueberry Hill. Ça, c'est sacré. Alors là, il n'y a pas de problème. Pas la dada, pas de dieu, pas de dwi. Ça, tout de suite. C'est... Et la soirée est partie. Alors, dès qu'on veut attaquer un bœuf, c'est avec Johnny, avec, j'ai un ami, Taobi, qui je crois d'ailleurs qu'il ne sait jouer que ça au piano. Mais il le joue merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Alors, Blueberry Hill.
Fazzamino, Blueberry Hill, le titre référence donc des fêtes, et c'est vrai que pour des tas de gens, ça doit évoquer des surprises parties, des soirées. Oui,
Fazzamino, on a tous été fiancés avec Fazzamino,
c'est sûr.
Les grandes surboumes de l'époque, et tout, c'était très important.
Et puis il y a d'autres souvenirs encore.
Il y a Presley, Elvis Presley, Love Me Tender. Ça, je le mets parce que vraiment... Je crois que Johnny doit m'écouter, s'il m'écoute c'est pour lui. Là je fais votre radio vous-même, c'est pas mal, j'envoie un message. Elvis Presley, j'ai pris Love Me Tender parce que bon, on peut tout prendre. De toute façon, là, c'est... Moi j'aime tout. Disons Love Me Tender, c'est ma celle qui me touche le plus. Et ce qu'il faisait en scène avec était fabuleux, fabuleux. Il chantait ça tout doucement, il attaquait tout doucement, il y avait des femmes dans la salle qui se levaient, mais des centaines, très calmement, sans bousculade, sans rien, qui montaient sur scène, qui venaient embrasser, qui retournaient à leur place. Lui ne bougeait absolument pas, bien sûr, Dieu le Père. Et c'était vraiment, c'était très, très, très beau à voir.
Ça, bientôt arrivé à la fin de cette première heure. Il nous reste encore le temps d'un ou deux titres, sans doute.
Ouais, deux. Je voudrais finir sur mon Barclay James Harvest, là, qui est super.
Ah oui, c'est un monsieur qu'il va falloir écouter avec attention. Puis après, il faudra se précipiter chez un marchand dès qu'il
sera ouvert lundi. Il faut y aller immédiatement. Et Charles, alors avant, je voudrais passer Charles Trenet, quand même, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Français jusqu'à présent. Et Charles Trenet, c'est... Bon, c'est sérieux quand même de dire qu'on s'il n'avait pas été là, on ne serait pas là. Enfin, tout le monde l'a dit, Brassens chantait Trenet au départ, en fait. Mais c'est très vrai, c'était très en avance, Trenet. Très, très en avance.
Sur tous les plans.
Ah, sur les plans orchestrales, c'était la première fois qu'il y avait des arrangements. C'est-à-dire qu'à l'époque, les musiciens qui étaient derrière le chanteur jouaient la mélodie que chantait le chanteur. C'était... la première fois qu'il y a eu un véritable arrangement, c'était avec Trenet, ce qui a quand même été une révolution. Et ses chansons étaient très modernes, sont toujours très modernes d'ailleurs. C'est ça qui est formidable, c'est que Trenet n'a pas bougé. On peut dire, on n'aime pas, ou je l'ai revu en scène, j'ai revu son dernier Olympia. C'est touchant, c'est beau, c'est bien écrit, c'est plein d'humour. Et c'est un poète gay en plus, il écrit gay, ce qui est très important. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Mais dans ton enfance, t'as dû être baigné de Trenet, non?
Ah oui, mon père était un fan. Mais je l'ai découvert plus tard, en plus. Parce que si vous voulez, comme au départ, quand je suis arrivé, j'ai démarré dans la chanson, c'était plutôt rock'n'roll, j'oubliais un peu les vieilles barres pour moi, tout ça, c'était... Et puis je suis retombé sur Trenet, et je suis tombé raide. Parce que c'est quand même quelque chose de très important. La chanson que j'ai choisie, c'est Il y avait, qui est pas très vieille, mais j'aime beaucoup cette chanson.
Il y avait Charles Trenet, mais c'est vrai que ça n'a pas d'âge. Cette chanson est toute jeune et elle est de la même veine que les premières.
Ça bouge pas.
Mais c'est vrai aussi, je crois que c'est une bonne définition, parce que souvent, c'est vrai que dans ces programmes du dimanche matin, on est amené à parler de Trenet. Mais c'est la première fois qu'on emploie cette expression de poète gay. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas
évident, c'est très difficile. C'est très difficile, parce que moi je trouve que c'est plus facile de faire une chanson triste et dure. Bon, c'est assez simple en fait. Et faire une chanson qui avance, qui dit de jolies choses gaiement. Bon, je chante par exemple, il meurt à la fin quand même, Ficelle, il a sauvé de l'ennui, Ficelle, mais il le fait, bon, c'est très joliment tourné. C'est un suicide assez exceptionnel.
En soleil.
Et ça va en plus très loin, traîner. Très loin.
On va donc terminer avec un monsieur qui est peu connu quand même en France, Barclay James Harvest.
Oui. Et ça, alors, pour moi, c'est la plus grande montée orchestrale que j'ai entendue. Ça, c'est grandiose. Il faudrait l'écouter 10 fois, celle-là. C'est Hymne, c'est la face 1, The Gone to Earth. C'est superbe. C'est un peu long, mais écoutez bien l'entrée, le pied de batterie là-dedans. La fin, les rentrées des basses et tout, c'est quelque chose... Moi, ça me donne la chair de poule, ça. Accrochez-vous bien, parce que ça met les cheveux dans le vent, ça.
On the other side.
James Harvest, donc c'est vrai que. Mais en plus, il y a un arrangement là aussi d'une magnificence
achevée. On entend
achevée.
Tout. On entend tout. Tout. Pas derrière ça, je crois que. Rideau pour aujourd'hui, parce que je vois pas ce que je peux passer de mieux derrière. Bon, pour moi, dans mon programme personnel, c'est mon numéro 1 à mon hit parade d'aujourd'hui, ça.
Ok. Tu nous en prépares un autre pour dimanche prochain ?
Avec plaisir.
On revient te voir ?
D'accord.
Ok, au revoir, Michel. Bonne semaine.
Bien dimanche prochain avec Michel Sardou, donc.